I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail, en même temps que des prix décents. Avec Garage Les Pièces CRS, c'est toujours mieux que décent. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise. Leur travail, scrupuleux. C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage Les Pièces CRS.
Les Pièces CRS.
Découvrez-les. Adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait, vous le recommanderez aussi. Garage Les Pièces CRS, 527 rue Maurice-Bois, Québec, 681-4476.
681-4476.
Bonjour, c'est Stephen Blaney, ton député fédéral. Hey, la fichue de pandémie affecte des secteurs comme la restauration et le tourisme, ça va reprendre. Mais notre région a aussi des bons emplois dans le secteur manufacturier. Je t'encourage à relever un nouveau défi, à profiter de ces opportunités-là, à cogner aux portes et explorer de nouvelles avenues. Bon succès!
Chez Rainfray Volkswagen Lévis,
c'est la vente démonstrateur.
Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross, 10 000 sur le Arteon, 11 000 sur notre Tiguan rouge, 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail,
CJMD 96.9.
Et sur Facebook, CJMD 96.9.
La radio de Lévis.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff Morin,
courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à notre sixième saison de la bulle immobilière à CJMD. Salut Kevin, comment ça va?
Ça va super bien, Jeff. La sixième saison passe sur le tard un petit peu, mais je suis tellement content de revenir en studio.
Puis crime, mais que ça passe sur le tard parce que juste avant, pour garder le momentum de tout ça, on a passé les 24 chroniques avec Copy Management pour savoir comment ça fonctionne l'investissement immobilier, du moment où ce qu'on pense vouloir acheter un immeuble à revenu, de quelle façon qu'on va procéder, on va-tu s'incorporer, pas s'incorporer, qu'est-ce qui arrive quand on l'achète, qu'est-ce qui arrive quand on va arriver dans les conditions, puis après ça, on le refinance, puis on l'optimise.
Toutes les opérations,
puis tout ce qui se passe par rapport à tout ça. Fait que, tu sais, on tient à remercier énormément Kevin Pépin pour ses 24 étapes pour l'investissement immobilier avec Copy Management. C'était vraiment, vraiment cool. Oui. We are back. On est de retour. Yes, c'est ça. Cool. Puis en plus, on a encore un invité coup de cœur. Puis pour moi, notre saison 6, puis notre saison 7, puis toutes les prochaines saisons qui s'en viennent, ça va être des saisons avec des invités coup de cœur. On reçoit aujourd'hui Francis Lessard, propriétaire de Graph Synergie. Bonjour Francis, comment ça va?
Ça va super bien, les gars. Merci de l'invitation. Écoute, c'est hyper enivrant. Il y a de l'énergie ici, c'est hallucinant.
Yes. Oui. On est des gars qui ont de l'air super relax, genre en hors d'onde. Puis quand on arrive, on est prime, puis on est direct dedans. Je trouve ça vraiment cool. Puis aujourd'hui, on va parler, oui, de marketing, oui, de démocratiser les développements, mais Graph Synergie, c'est une entreprise qui fête ses 25 ans cette année. C'est quand même impressionnant. Félicitations.
Écoute, j'étais destiné, je pense, à devenir entrepreneur quand j'étais à l'école d'architecture. J'ai été probablement un des premiers actionnaires du Café étudiant. On avait repris le Café étudiant.
Actionnaire.
On l'avait incorporé. J'étais un des actionnaires fondateurs de ça. J'ai dit, regarde, moi, je me pars en business. Et c'est de là que parti mon goût de faire de l'argent parce qu'on faisait des parties payants pour les étudiants.
Les jeudis soirs ou c'est?
Ouais, c'était jeudi, c'est vendredi et samedi.
OK. Extensionné.
Quand même cool. Puis toi, Francis, tu es architecte de formation en 96, je crois.
J'ai fini en 94 à l'Université de Montréal, bac en architecture. Puis j'avais fait un début de bac en building engineering à Concordia avant. Puis j'ai fini en 94 puis j'ai commencé Graph en 96 avec un partner à l'époque.
Fait que Graph Synergie, c'est depuis 1996. Puis c'est quoi Graph Synergie? Puis c'est quoi les orientations de votre entreprise par rapport à tout ça?
Parfait. Bon, quand on est démarré, en fait, c'était vraiment axé sur la portion plus visualisation. À l'époque, le 3D servait à des fins de décision pour les villes, les gouvernements, tout ça. Et puis, ça a migré beaucoup. Puis, aujourd'hui, on est une agence tech marketing. Je dis bien tech marketing parce qu'il y a beaucoup de technologies. Et nous, notre job, c'est d'assurer un parcours client entre un bien immobilier, qu'il soit industriel, bureau, résidentiel et compagnie, là, entre un client et et le projet. Donc, on crée du brand, des stratégies, on crée le funnel, on crée des outils technologiques, on crée les outils pour que les gens puissent voir le matériel et compagnie, tomber en amour avec, si on veut, là. Et puis après ça, devenir aussi, créer du data. Créer du data aussi pour les promoteurs, les gestionnaires et les équipes de vente qui vont utiliser ça pour faire, après ça, on revient avec des stratégies marketing. Donc, c'est vraiment une approche holistique, là, de l'immobilier pour mettre en contact un produit et un client potentiel.
Cool. Puis on comprend qu'en 96, quand tu as commencé, tu étais probablement un des premiers à pousser ça. Tu dis que c'était peut-être juste les grosses organisations ou les villes qui avaient accès à ça.
C'était vraiment les gouvernements principalement. Le premier projet qu'on a fait, c'était un projet même qui n'était même pas dans l'immobilier pur. Là. On avait fait des simulations d'études d'impact pour la côte des éboulements. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un gros accident.
Oui.
Le gouvernement nous avait appelé. Il nous dit, écoute, vous avez les seuls qu'on connaît au Québec qui ont la technologie pour vous nous aider. Et c'est là qu'on avait vu la puissance de la visualisation à cette époque-là, puis on a commencé là-dessus. Ça a migré beaucoup, ça a eu 4-5, je dirais, Graph a 4-5 vies, si on veut, là. Ouais. Mais aujourd'hui, on a vraiment une approche intégrée où on met ça de l'avant, où le visuel, ce n'est qu'une portion de l'ingrédient, là. On parlera de ça tantôt.
Puis, tu sais, les technologies en date d'aujourd'hui, on s'entend-tu qu'on est les deux pieds dedans, on a accès aux réseaux sociaux, on a accès à des nouvelles technologies, des visites virtuelles maintenant pour visiter les propriétés. On a des modélisations 3D qui se font. On a même du staging virtuel. Fait que, tu sais, on prend des photos puis on vient meubler les photos pour mettre...
Ceux qui étaient endormis jusqu'à maintenant dans la dernière année, ils ont embarqué dans Mash, on s'entend, pour toute cette portion-là. Là.
Ils ont pas eu le
gros bond qui s'est fait avec la COVID.
Il y a beaucoup de démocratisation qui s'est faite. Il y a comme une tempête parfaite actuellement là, les technologies sont toutes rendues à point, les data, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'informations.
Les CRM qui nous permettent aussi d'avoir...
C'est très important, oui.
C'est une information importante, puis tu sais, une culture de client, une culture de lead aussi, puis une culture de rester en contact avec les gens aussi. Puis ça, c'est d'autant plus important là, parce que souvent, tu sais, c'est super intéressant d'avoir plein de gens qui nous contactent, mais est-ce qu'on va juste lui parler 5 minutes dans l'année ou on va avoir d'autres points de contact avec ces clients-là? Puis je pense que c'est super important. Tu es une entreprise qui est principalement, marketing. Puis, tu sais, moi, ça me parle énormément, ça, ce type d'entreprise-là. Fait que c'est sûr qu'on va s'éclater dans ces sujets-là. Tu disais qu'au niveau de Graph Synergie, vous aviez quand même quelques départements à l'intérieur. Vous aviez un département créatif. Puis, tu sais, vous avez une entreprise qui permet, par exemple, à un promoteur entrepreneur d'avoir un service clé en main, là, du début jusqu'à la conception du logo, jusqu'à la couleur du logo, puis les planches de présentation, par exemple, carte d'affaires, visuel, papier, papeterie, etc., maquette. Jusqu'au site web.
Ça existe-t-il encore des maquettes?
Des maquettes réelles? Ouais. Il n'y en a plus beaucoup.
Non,
Il y en a. Ça reste encore séduisant quand tu la vois, mais ça ne sert absolument à rien dans ton parcours client. Là.
Ouais.
Et les gens vont en trouver qui autre, mais ça ne te permettra pas d'acheter un condo ou une. Non. On a vu ça dans certains projets de résidence personnelle âgée, qui ont tous transformé leur maquette physique. En faisait plusieurs. Maintenant, avec des maquettes interactives touchscreen qu'on fait avec des game engines. Puis tu peux voir
dans des roulottes de chantier comme on a visité ici avec Humano.
Oui, effectivement. Ben, d'ailleurs, c'est une de nos plateformes. Puis, si vous avez eu Pierre-Yves Charest là, dans ses projets, on implante beaucoup de plateformes similaires. Oui,
c'est ça. Puis, tu sais, on comprend dans le fond que même si c'est des organisations qui ont beaucoup de budget ou beaucoup de ressources, ça reste que c'est une expertise pointue s'ils s'en remettent à vous, dans le fond, pour tout développer. Parce que c'est un peu ça qui donne naissance au projet. Fait qu'ils arrivent chez vous avec une certaine idée ou c'est vraiment un brainstorm?
Il y a différentes approches. C'est sûr qu'on se retrouve avec des Vimco. En général, il est pas mal enligné sur ces projets. Puis, on va travailler sur des éléments plus cadrés, si on veut. Il y a des projets où on va avoir plus de place. C'est-à-dire qu'on va avoir travailler sur le positionnement de produit, le type de clientèle qu'on veut. Puis, Puis on parle de résidentiel, mais il y a eu aussi toute l'approche des reconvertissements de centres d'achat, des districts commerciaux, des édifices à bureaux actuellement qu'on travaille. On a des projets à Montréal et à Ottawa. Oui. Où on travaille le repositionnement du building parce que le building d'hier n'est plus le building d'aujourd'hui. Là, les gens sont rendus chez eux, travaillent à 60% à l'extérieur. Et il faut repenser le bâtiment, il va vivre comment dans les 10-15 prochaines années. Il faut que tu penses à la clientèle, son persona. Il faut que tu penses à ce qui va attirer ces gens-là. C'est quoi qui les intéresse? Puis si on touche le résidentiel, le persona est différent que si on touche un CFO d'une compagnie qu'il faut que tu dises, je te propose de venir déménager d'une place X à une place Y avec tes employés qui, on sait, qu'ils vont être à 60% à télétravail. Fait qu'il faut avoir toutes ces considérations-là. Le transport en commun, il faut penser à toutes sortes de choses. Après ça, on crée le branding. On crée l'axe de com, si on veut, le message à leur dire. Puis après ça, on travaille ses stratégies de message, les produits créatifs, les plateformes en ligne, toute la déclinaison des outils, parce qu'on veut être capable de prendre des data, prendre des outils, les mettre dans un funnel, créer des plateformes qui vont capter ces clients-là. Donc, ça peut être des sites web, ça peut être des applications interactives, c'est des capteurs. Puis là, ça crée du data, ça crée des lignes, des informations sur comment les gens utilisent les sites web, comment l'équipe de location utilise le site web quand ils présentent un client. Puis là, ça crée d'informations qui nous permettent de retourner en marketing pour réaffirmer un bon positionnement. Fait que c'est comme ça qu'on travaille. Que ce soit du commercial, du bureau, c'est la même chose. On veut que quelqu'un s'intéresse à notre produit. Fait qu'il faut être capable de contrôler la recette. Imagine-toi le matin, tu es un promoteur, tu travailles avec un gars qui fait du marketing, une équipe de location, un gars de web, puis une firme de 3D, il y a un bout qui va manquer quelque part. Il n'y a pas de connectivité. Fait que nous, on a décidé de faire une approche holistique. On est la seule dans l'aide du Canada à faire ça. Et ça nous permet
de faire des projets. Et pour vrai, ça devient une plaie là, de tout vouloir contrôler à l'interne là, parce que justement, tu deviens le point central de ton projet. Puis là, il y a quelqu'un qui va attendre après toi pour pouvoir avancer sa partie, mais l'autre personne attend après la partie de cette personne-là, puis ça vient retarder tout le processus. Fait que tu sais, d'avoir justement une formule tout inclus, si on veut, ça vient aider considérablement dans le développement et dans le processus.
Il y a l'aspect créatif aussi. Le fait qu'ils sont outside of the box parce qu'ils vont vous voir, ils vont avoir une autre adresse. Vous pouvez arriver avec d'autres choses qu'à l'intérieur, à un moment donné, tu prends tes plis, tu prends tes façons de faire, tes types de projets.
Nous autres, on est spécialisés dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on n'est pas une agence qui fait un concessionnaire auto une journée puis il va faire une pharmacie l'autre journée. Nous autres, on connaît le produit, mais on connaît les gens qui consomment ces produits-là. Il faut être proche de la démographie, il faut consulter les études de marché, il faut consulter être proche de la tendance aussi. Puis ces technologies-là qu'on appelle PropTech, le Property Technology ou le Commercial Real Estate Technology, ça dépend si tu fais du CREETECH, c'est commercial au bureau ou résidentiel, c'est des approches différentes. Mais il faut que tu les connaisses. Fait que nous autres, c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est de devenir une agence 100% dédiée à l'immobilier dans tout son sens large et déployer toutes les plateformes, les solutions. Et ça marche très bien.
Ça marche très bien. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on amène aussi une cohésion sur l'ensemble des projets. T'sais, tu disais justement que tu avais un groupe qui, là, maintenant, vient centraliser beaucoup sur des types de projets cadrés. Mais avant ça, il y avait eu le développement du branding, le développement de la marque, etc. Puis, tu sais, de quelle façon que les funnels de vente allaient être mis en place pour attirer la clientèle qu'on veut. Parce que, tu sais, veux pas, on devient un produit niché sur le type de clientèle que nous, on veut avoir comme... comme investisseur ou propriétaire ou promoteur de nos projets. Là.
Ben, la question, il y a eu un gros boom, on s'entend, des dernières années, il y a eu beaucoup de demandes sur « je veux du locatif ». Beaucoup de boomers quittaient leur maison, ils ne voulaient pas aller en RPA tout de suite. Ils ont dit, il y a beaucoup de gens qui voulaient habiter dans du neuf en locatif. Et on l'a vu, les logisticaux, des Roussins, ils construisent énormément. Et bon, et j'en passe, UOT et compagnie, je pense juste Québec. Là. Et d'autres clients comme Oikos et compagnie. Donc, ces gens-là ont développé. Effectivement. Là, quand tu arrives, je prends l'exemple des investisseurs qui achètent un immeuble, deux immeubles, trois immeubles, quatre immeubles. C'est quoi la compétition que je suis sur le marché? Faut-tu que je me compétitionne sur le prix? Et moi, on offre ma localisation, est-tu excellente? Je vais-tu séduire, moi, pour venir chez nous, qui va louer 1800$, 1500$ par mois, mon appartement, puis je suis à 3 kilomètres de chez nous. J'ai un ensemble qui, quand j'arrive là, je suis accompagné, j'ai un branding, j'ai l'impression d'acheter un condo, tu as des services, tu as des produits intégrés, tu as du Wi-Fi, tu as un accueil, tu as des beaux pamphlets. Tu as le choix. Qu'est-ce que je vais choisir en tant que consommateur? Fait que c'est sûr, si tu ne te préoccupes pas de tout ça, ça peut arriver que tu te fasses couper l'herbe. Là, ça a été une stratégie de prix. Là, tu vas être moins content. Là, tu vas trouver de travailler, même si ton produit est neuf. Puis si tu as du produit usagé, c'est encore pire. Tu compétitionnes contre beaucoup de produits neufs sur le marché actuellement. Fait que c'est un défi. C'est pour ça que quand les gens viennent nous voir, c'est sûr qu'on travaille sur des plus gros ensembles, en général du 50, 60 et plus, là, et des phases, multiphases. Mais on va travailler aussi avec eux là-dessus. Quelle est la meilleure stratégie de positionnement pour que tu
différencie des autres.
Oui, puis c'est hyper pertinent ce que tu viens de dire. Tu sais, des fois, on a le réflexe comme plus petit ou moyen investisseur de pas regarder les plus gros ou de penser que c'est pas une compétition ou de penser que la compétition vient sur l'échelle de la business alors qu'il y a une compétition de géolocale, dans le fond. Là, mm-hmm. Si t'as deux coins de rue puis toi, tu rénoves ton 6 logements, mais le ImmoStar de ce monde qui fait un UP, il est techniquement un compétiteur pour quelqu'un qui cherche à se loger peut-être pas exactement dans ta braquette,
mais ça existe. Que si tu te présentes là, si tu faisais ton client mystère, là, tu vas visiter ces immeubles-là, tu vas voir la qualité de la réception, l'environnement, ils vont t'accueillir, ils vont te présenter leur storytelling, ils vont te présenter l'ambiance des pièces, pourquoi ils ont fait tel aménagement, puis là, tu vas dire, hey, demain, je m'en viens rester dans un cadre de vie. Mais ça, ça fait partie du branding, de l'analyse de départ, puis de le positionnement. Après ça, les produits marketing, mais il faut qu'ils livrent une promesse. Ben, c'est un peu ça. Encore une fois, je pense que c'est important d'en parler. Je pense que ça fait partie de la création de valeur aussi en immobilier. Oui. Puis,
On l'a vécu, nous, justement, avec Stéphane et Humano. Moi et Jeff, on est tombé en bonne notre chaise sur la démarche, tu dis, de storytelling, de sharpness du projet. À quel point c'est pensé, réfléchi, analysé.
Si les contrats étaient sur la table, Kevin puis moi, on en signait un.
Je voulais même pas aller habiter là, mais on était prêts à signer.
Oui, on signait.
Tant mieux si vous étiez séduit, parce que ça veut dire qu'il a bien fait son travail, puis c'est bien entouré. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est un élément. C'est un élément important, je pense. Puis c'est pas juste au Québec. À Québec, là, il y a beaucoup de place pour ça. T'sais, la ville, ça reste un terreau, là, ça reste un territoire. Puis moi, qui étudie en architecture, ben, on s'est toujours posé la question. Quand tu habites dans un appartement, maintenant, tu es capable de faire du work, live, play, entertain, and shop, and all the rest. Là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme proximité? Qu'est-ce que je vais avoir comme plaisir? Puis c'est ça qu'il faut que tu penses à ça quand tu bâtis ton appartement ou tu le rénoves. Qu'est-ce que j'ai à côté qui va me permettre de créer cet écosystème-là pour que mes gens qui vont venir chez nous vont être contents? C'est pas juste le Wi-Fi qui devient un game changer aujourd'hui. Là,
non, c'est clair.
Puis c'est vraiment intéressant. Puis écoute, on effleure seulement. Ouais. Vous êtes qui? Graph Synergie puis Francis Lessard. On est obligé d'aller en pause. Restez avec nous. On revient dans quelques minutes.
Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de KP Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier, que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com.
CJMD 96.9.
Branché sur Lévis.
Bonjour, mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Vous écoutez La Bulle immobilière à 96.9. Je suis aujourd'hui avec Kevin Filion, mon co-animateur comme toujours. Mmh. On est aujourd'hui avec Francis Lessard, propriétaire de Graph Synergie. On parle de marketing, on parle d'immobilier. C'est super intéressant. Puis, Francis, comment que ça s'est passé l'immobilier? Est-ce que tu peux nous faire un peu un historique? Est-ce qu'on est capable de placer dans le temps, par exemple, en 1980, les développements immobiliers se faisaient sur ces besoins-là versus en 2000, on était là, puis maintenant, en 2020, on se situe ici. Mm-hmm. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se voir où il y a des tangentes vraiment marquantes dans les...
Il est clair que l'immobilier, il y a quelques années, ne répondait pas aux mêmes critères. C'est-à-dire que la démographie des gens, on parle des boomers, n'achetaient pas sur les mêmes fondements de valeur que les millennials ou les X, que moi j'en suis un X. Là. On n'achète pas sur les mêmes principes. Ça, c'est vraiment une question de génération. Fait quand tu regardes là, les projets de condos, il y a quelques années, la tendance démographique était beaucoup plus à l'acquisition d'une maison en banlieue avec une voiture. Les années 50, ça, c'est l'après-guerre. Après ça, il est arrivé une densification avec des centres d'achat. Puis il est arrivé les boomers. Les boomers ont voulu se rapprocher. Ils veulent avoir des communautés parce qu'ils ont appris à vivre en communauté. Puis c'est ce qu'ils voulaient faire, eux autres. Donc, je ne parle pas des hippies nécessairement, mais c'est une tendance. Mais ça a créé des communautés. C'est les gated communities, en passant, là, des États-Unis, en Floride, qui se sont faites. C'était pour eux autres, ça. C'était pour les boomers qui s'en allaient vivre en communauté. Ces gens-là, ils voulaient vivre un petit peu... Ça a tendance à revenir tranquillement, pas vite. Pourquoi? Parce que les millennials aujourd'hui et les boomers ont beaucoup de similarités. Ils sont nombreux en démographie et ils ont à peu près les mêmes appréhensions. Ils n'ont jamais eu de problème à se trouver de l'ouvrage. Ils n'ont jamais eu de problème d'argent parce que l'argent coule à flot, les taux d'intérêt sont bons. Il faut comprendre que les boomers, eux, qui sont arrivés juste après-guerre, ça a été la croissance économique pendant des années. C'est différent des X que je suis. Moi, quand je suis sorti de l'école, c'était les faillites par-dessus faillite, les bureaux fermés, bureaux d'architecte.
Les taux à 13, 14.
Les taux 13, 14, 20, compagnie, c'est ça. Donc, c'est une culture différente. Et pour comprendre l'évolution de l'immobilier, c'est de comprendre la démographie. Ce qui arrive actuellement, là, je ne parle pas des années 80, 90, les changements, puis les nuances entre les deux, tout ça, mais aujourd'hui, ce qu'on peut voir comme transition, c'est qu'aujourd'hui, puis j'avais une discussion hier avec des collègues, on parlait d'une tempête parfaite. Cette tempête-là, aujourd'hui, ce qu'elle va provoquer, puis ce qu'elle va amener, il va y avoir des changements drastiques sur la façon d'utiliser ce qu'on pensait être des acquis. Hein? Faut densifier les centres-villes. Il y a personne qui parlait de se réapproprier des propriétés commerciales qui étaient extrêmement bien situées, puis de refaire des pôles. Tu sais, les transports en commun, là, ça va devenir un game changer aujourd'hui. Il va falloir se poser la question maintenant, les gens vont consommer quoi? Ils vont se divertir comment demain? Puis c'est quoi la propension du télétravail aujourd'hui que les gens connaissent pas? Il n'y a personne qui est capable de nous dire si tu 20, si tu 30, si tu 40 %. Puis quelle catégorie d'employé va vouloir retourner au bureau? Quel âge a-t-il? As-tu les moyens de consommation? Sur son lieu de travail, il va-tu être capable de magasiner, d'acheter? Tu sais, les rues commerciales, le centre-ville de Montréal, là. C'est-tu les boomers qui vont retourner au centre-ville ou ça va être les plus jeunes? C'est-tu les millennials ou c'est les X qui vont être plus enclins à retourner parce qu'eux autres, ils sont plus capables d'avoir des enfants à la maison? Il faut qu'ils retournent travailler. Bien, aujourd'hui, la tempête parfaite, en plus, on a des taux d'intérêt qui sont bons, puis on a une pandémie. Puis on a une migration de démographique qui fait que la consommation immobilière puis les développements immobiliers se font en quantité effarante. Donc, on a du choix. Le prophète que je ne suis pas ne sera pas en mesure, n'est pas en mesure de vous donner tout ça aujourd'hui, mais c'est une tempête parfaite actuellement. Il y a des signes, par contre, qui disent qu'il y a un peu un tsunami qui va arriver après. Et ce tsunami-là, c'est beaucoup relié à la santé publique. Puis au taux d'intérêt, aux dépenses, aux dettes publiques. Ça, pour moi, ça va amener un élément changeant qui va faire que les développeurs immobiliers ou les projets ou les investisseurs vont devoir se poser la question sur ces deux critères-là puis les surveiller. Je ne parle pas du taux de change, là, je parle vraiment, là, parce que il y a deux choses qui s'amènent. Le taux de change, ça amène aussi la capacité d'acheter des équipements. Aujourd'hui, le 2x4, quand il a augmenté de 300 %, ça a un impact sur les projets immobiliers à long terme. Ça va-tu rester comme ça? Tant qu'il y a de la surchauffe, oui. Tant qu'il y a de la demande, oui. Fait que moi, je regarderais. On a vu évoluer. Avant, c'était beaucoup des groupes de population, des taux d'intérêt un petit peu qui changeaient, les styles de tu avais les millennials, tu avais les X, tu avais les boomers. Il y avait des masses de consommation. Là, on est arrivé dans un contexte où tout ça s'est clashé, comme dans une grosse vague. Et là, c'est plus...
On ne sait pas ce qui va tomber en arrière de ça.
C'est plus une question de genre. C'est plus une question de
d'âge.
D'âge. Ouais. C'est comme une question maintenant de d'autres choses.
De besoin, peut-être.
Ouais, on veut quoi demain, disons, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que grand-parent.
Mais tu sais, ça peut être un game changer complètement différent aussi. Ça peut devenir aussi... une question de survie aussi, parce qu'avant la COVID, tu sais, on avait 500 milliards de dettes au Canada. On est à, tu sais, 500 milliards de plus depuis la COVID. Fait que, tu sais, pendant toutes ces années-là, on avait accumulé 500 milliards de dettes. La COVID arrive, boum, on double notre dette par rapport à tout ça. Tu sais, ça va avoir des impacts significatifs au niveau économique pour l'ensemble de la population. Puis, tu sais, il y a des mouvements migratoires aussi qui se fait. Autant des bébés boomers qui, eux, avaient déjà commencé à être en banlieue, puis là, ben ils se font un petit peu plus vieillissants, fait qu'eux veulent revenir vers les centres, mais ceux qui travaillaient, les X, les millennials, ben eux autres veulent peut-être aller en banlieue. Ouais. Tant que l'Internet rentre avec des tonnes de briques, ben tu sais, ils peuvent se permettre d'être en banlieue, puis d'y aller une fois, deux fois par semaine au bureau.
Exactement. Ils ont dit banlieue, mais des fois, c'est chalet. On recevait Nicolas avant les fêtes pour tout ce qui est Charlevoix. La demande à Charlevoix est épouvantable.
Ben ils vont dans des endroits où c'est agréable. C'est agréable, mais quand tu vas au chalet en Charlevoix, sors pas dehors, t'as oublié une peine de lait. T'es nulle part. Ça, c'est bon, un 6 mois, 12 mois, tu vis ton trip chalet. Moi, je betterais là, actuellement sur des quartiers centraux résidentiels, entre autres à Québec. Je serais du genre à regarder Sainte-Foy, Sillery. C'est des propriétés qui valent plus cher, mais regarde comment elles sont situées. Tu as des maisons unifamiliales de secteur que tu as besoin de rénover. Et si j'étais une ville, je lance une petite affaire, si j'étais une ville en développement immobilier, plutôt que de dire on va créer des quartiers centraux très densifiés, j'aiderais plutôt, moi, les jeunes familles qui restent en banlieue, qui veulent revenir au centre-ville, à avoir des crédits d'impôt pour rénover des maisons de boomers qui partent à la retraite, qui s'en vont dans les résidences ou dans les appartements. Ouais. Si le même matin, tu crées des crédits d'impôt ou des baisses de taxes, tu ramènes du monde au centre-ville, ça justifie tes transports collectifs parce qu'ils vont en avoir plus. Ça justifie aussi d'avoir des centres d'achat en santé puis d'avoir des équipements et des rues commerciales parce qu'il va y avoir plus de consommateurs en bas âge, avec des familles, des enfants qui vont aller dans les écoles de quartier, dans les écoles privées à Québec, dans les endroits à proximité. Et moi, je suis
Puis où est-ce que l'économie va être active aussi?
Exact.
Parce que ça, c'est quand même super important. Puis quand on a reçu ImmoStar, justement, c'était un des points qui était super important aussi dans leur positionnement de produits. C'était aussi d'amener des services, d'avoir, oui, le tramway, peut-être, oui, les autobus, oui, s'assurer qu'on ait des services en commun. Puis, tu sais, moi, au départ, j'étais comme, les services en commun, c'est pas tant important, etc. Tu sais, on a tellement une démographie. T'sais, on a tellement une population minime par rapport au territoire qu'on couvre. T'sais, on se retrouve à Boston avec 7 millions de personnes versus ici, on est à 800 000.
Pour le même territoire.
Pour le même territoire. Puis, c'est sûr qu'à Boston, les infrastructures, les métros, les autobus, le tramway, mettez-les, c'est important, tout le monde est là. Tandis que moi, ici, j'étais toujours, ben, t'sais, on est tellement grand par rapport à tout ça, c'est sûr qu'on va toujours avoir besoin de notre voiture par rapport à tout ça. Puis surtout, étant courtier immobilier, je suis dans ma voiture comme 50 000 km par année. Fait que veux pas, t'sais, moi, je trouve ça inconcevable. Puis, Immostar m'a amené à réfléchir différemment. Ils ont dit, tu sais, quand on arrive à avoir des gens qui ont un intérêt à venir s'implanter ici au Québec, qui veulent de l'immigration ou quelque chose comme ça, ben ils n'auront peut-être pas de l'argent pour avoir une voiture dans leur première année. Donnons-leur des services pour pouvoir se promener à l'intérieur de la ville, puis on va garder l'économie dans le secteur. Puis c'est là que j'ai comme fait... Là, ça fait du sens.
C'est culturel un peu aussi. Tu dis la culture de l'auto, c'est dans ta tête, c'est ancré tout ça. Mais s'il y a des développeurs qui mettent des projets où la solution est là puis est efficace, puis que justement, ça t'amène à repenser à oui ta vie de famille toutes les contraintes que ça peut amener, mais il y a peut-être un moment dans que tu vas te loger dans ta vie que ça va te rejoindre.
Et là, ça touche un peu un de nos métiers. Connaître son persona, la clientèle à qui on s'adresse. C'est sûr qu'un développeur qui arrive, qui est mal préparé, qui fait mal ses travaux, puis il pense qu'il va faire comme le projet 3-4 km plus loin, mettre une pancarte sur le bord du chemin comme v'là 15 ans, puis ça se loue, ça se vend. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire, mais faites ton exercice, fais tes devoirs autrement, pense à ta démographie, réfléchis avec la ville sur ses développements qu'ils vont faire, la proximité ou l'opportunité d'un transport structurant, parce que même si on a des commentaires, tous et chacun, sur le transport structurant à Québec ou à Lévis, c'est important d'avoir du transport commun qui est efficace. Puis quand tu sors dehors, il arrive à l'heure, on time, il est agréable, il est le fun, t'embarques dedans ou pas, c'est ce qui fait que t'embarques. Le métro, là, qu'est-ce qui est le fun? Tout le temps même heure, tout le temps même propriété, tout le temps même affaire, puis tout le temps même chose. T'es sûr de tes heures, tes jours. Fait que ça donne, c'est un game changer pour bien des familles. En tout cas, et c'est une partie du métier qu'on fait, qu'on a besoin de connaître. C'est sûr que nous autres, quand on arrive, ce qu'on va faire pour une première étape, on va souvent regarder l'étude de marché qui a été faite. C'est qui l'a fait, comment il l'a fait. Je sais que j'avais reçu des collègues avec qui je travaille, Steve Gilbert, pas de le nommer, mais souvent, ce qu'on prend, c'est la première chose qu'on analyse, on prend l'analyse de Steve, puis on s'en inspire, puis on challenge Steve sur ses études de marché aussi, pour qu'il n'y ait pas juste sa dimension à lui, qu'il y ait la dimension aussi, parce que lui, il n'est pas d'invente, hein, il ne sait pas si son étude de marché a créé les
gens. Le résultat escompté.
Oui, parce qu'il dit, il va créer des cadres. Ce qu'il veut, c'est d'abreuver du résultat pour être capable de
contaminer. Parce qu'il part du passé, lui.
Il part du passé l'historique. Avec du prédictif. Et prédictif, et pour confirmer si c'est bon ou pas, il faut travailler ensemble. En tout cas, dans l'immobilier, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer ces affaires-là pour créer, pour comprendre. Puis à la fin de la journée, il faut que ça marche.
Puis quand tu dis là, qu'on se base sur le passé, là, nous, comme courtier immobilier, là, qu'est-ce qui s'est vendu en juillet l'année passée, là, qui n'est même pas un an? C'est même pas comparable à ce qui se passe actuellement. Là.
Puis, c'est la tempête parfaite.
Je parle actuellement de la région de Québec seulement. Là. Montréal, les autres, ils vivent ça depuis un certain moment par rapport à tout ça. Mais c'est quand même difficile. Puis autant qu'en juillet l'année passée, j'étais capable de donner une braquette de prix à mes clients pour 5-6 000 $ qu'en date d'aujourd'hui, mes braquettes vont être de 10-15 000 $ parce que c'est plus difficile, parce que les acheteurs sont tellement émotifs dans leur achat qu'ils vont... offrir des prix largement supérieurs, puis on en a quelques-uns acheteurs qui vont être plus raisonnés, qui vont être plus cartésiens, puis qui vont respecter certains budgets par rapport à tout ça. Mais là vient un moment donné où ce que la pression se fait sentir de l'externe. La maison est vendue, ils doivent sortir pour une date précise, etc. L'émotion embarque, puis là, ils deviennent complètement déraisonnés, puis c'est quand même fou, là, qu'est-ce qui se passe.
Je pense qu'il faut pas... Si on parle de la tempête parfaite, ça dure, ça fait mal, ça dure un certain temps, ça va provoquer des effets collatéraux. Là, la COVID, partout dans le monde, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on est...
C'est la bonne nouvelle.
Si
on était juste au Québec et au Canada à vivre ça de cette façon-là...
J'aurais peur en maudit.
Tabarouette, mais tu sais, la bonne nouvelle, c'est que c'est international, puis c'est là qu'on se console, parce qu'on se dit, écoute, si nous, ça crache partout aussi, là.
C'est ça. Ben oui, puis en même temps, je pense que ça devient... Je pense encore que Québec, c'est un terreau fertile pour l'investissement étranger. Je pense que c'est une opportunité pour attirer des travailleurs parce que le coût de la vie reste encore extrêmement intéressant par rapport à d'autres endroits. Puis puis même Montréal. Même Montréal, c'est un endroit, même si c'est plus cher, ça reste encore, en Amérique du Nord, un des endroits, j'appelle ça un « cheap place to live ». Ça coûte pas cher, Montréal, par rapport à bien des centres urbains.
Des métropoles,
bien sûr. Métropoles en Amérique du Nord. À Québec, c'est un centre régional. Là. C'est encore mieux comme qualité de vie. Là. C'est sûr qu'il faut t'aimer le froid à part de ça. Ouais. Mais une fois que tu as passé ça, Mais par contre, ce qui nous désavantage, nous, c'est notre taux de change, c'est notre dollar par rapport à l'intéressement des gens qui viennent ici, investir ici. Une fois qu'ils viennent ici, qu'ils ont le dollar canadien, ça leur donne pas beaucoup de pouvoir pour retourner dans leur pays, pour réinjecter de l'argent dans leur pays ou pour voyager après. C'est plate à dire, mais c'est ça. Le dollar, là, je propose le dollar américain, il est à 20 cents, là. Il est moins pire, là. Mais l'euro et l'aide sterling, c'est 80 cents, c'est 80% de plus, là. Et 76% pour l'euro. C'est sûr que quand tu vas attirer, tu vas parler d'immobilier, d'identification, on parlait d'attirer du monde, l'immigration, c'est super important. Donc, nous, on prend ça en considération. On parle beaucoup d'économie, par exemple. Je pensais pas que c'était une chronique.
Ouais, non. Mais tu sais, une des choses qui était bonne pour la COVID, là, c'est que ça a amené une super belle température pour l'hiver, là, parce qu'on a eu vraiment un hiver extraordinaire.
Ça doit être ça. Chercher le lien. Mais,
je suis économiste en passant. Puis, tu sais, pour finaliser sur le volet, si on veut, plus économique, tu sais, on a toujours parlé que la région de Québec, c'était une ville de fonctionnaires. Puis, tu sais, dans les crises économiques de 90, de 2000, 2008, on a quand même passé au travers, tu sais, je veux pas dire haut la main, mais on a quand même bien passé au travers des crises économiques. Puis, tu sais, on va en vivre une, là, prochainement. Puis, il faut juste, on sait pas quand, mais ça s'en vient.
Ouais. Mais je pense que l'impact des fonctionnaires va peut-être avoir moins d'influence sur cette pandémie-là. Ouais. Parce que ça touche pas juste une catégorie de population, ça touche un écosystème complet.
Ils sont pas à l'abri de ça. Sinon, même, ils sont encore plus en télétravail.
Ça met une pression sur tous les paliers de gouvernement ensemble. Fait que c'est beaucoup plus que la région. Fait que c'est plus, je pense pas que l'impact gouvernemental, puis je pense pas qu'on en vive une grande crise ici parce que les employés qui sont plus défavorisés, ils ont été subventionnés quand même.
Ben oui, exact. Puis, en plus de ça, c'est
que la valeur de notre dollar qui, je pense, à force d'imprimer de l'argent, à un moment donné, il faut se poser la question.
Encore là, tout le monde en imprime.
Tout le monde en imprime. Donc, pourquoi la crypto-monnaie augmente actuellement? C'est à cause de ça. Fait que les gens se retournent vers la crypto-monnaie.
On revient à l'économie. Mais une question qui me reste depuis tantôt. Quand tu dis tempête.
On va acheter l'immeuble avec l'économie.
C'est ça, avec du Bitcoin. C'est quoi le. Quand tu dis la tempête parfaite, du point de vue à qui est parfaite? Dans le sens que. Pourquoi tu la nommes parfaite?
Une tempête parfaite, je ne pense pas qu'elle est parfaite pour personne. Il y a des gens qui vont en profiter par opportunité, puis parce qu'ils sont...
Pour les clients développeurs, tu veux dire, mettons, du point de vue...
Au niveau immobilier, là, des gens qui... Parce que actuellement, ça a provoqué cette tempête. T'sais, pour les courtiers, actuellement, c'est le nirvana.
Ah oui?
Ils n'ont pas à courir. Tout est plus haut. Les commissions sont plus élevées parce que les prix sont plus élevés. Ils n'ont pas fait plus d'ouvrages que d'autres. Je ne dis pas rien quand
ils... Non, mais ils sont pas meilleurs qu'il y a un an.
Ils n'ont pas provoqué ça tant que ça pour la majorité. Ils n'ont pas tout été. Il y a quelqu'un qui a trouvé une méthode de marketing ultra puissante, puis qui a fait que lui, ses leads, ils rentrent comme 10 fois comme les autres. Il y en a qui le font. Ils ont juste plus de business que les autres. Mais la tempête parfaite dans ce cas-ci fait qu'il y a beaucoup de business. Comme moi, j'en ai profité. L'année passée, 35% de croissance. L'année passée, cette année, ça va être la même chose. Notre domaine profite de la demande pour des projets innovants. Les investissements sont bons. La HHL embarque dans les projets. Le financement, les taux d'intérêt sont tellement bons que les gens en profitent pour investir énormément. Pour le moment, c'est très bon. J'ai besoin d'une tempête parfaite pour une certaine partie de l'économie, mais une tempête parfaite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont mis ensemble qui font qu'il y a comme une espèce de réaction en chaîne qui s'est pas encore provoquée. Fait que un impact a amené des bénéfices pour l'autre, puis des bénéfices pour le côté négatif d'un va amener des bénéfices pour l'autre, qui fait qu'à un moment donné, à l'échelle mondiale, c'est une tempête qui va. C'est une grosse vague, mais ça ne détruira pas tant. Tant de choses que ça, ça va donner du... Ça donne une réinvention de la ville. Ça oblige des propriétaires, des développeurs à repenser leurs immeubles, des centres d'achat à se réinventer plus vite qu'ils pensaient plutôt que de se faire ça au compte-gouttes. Les villes à repenser à du transport autrement parce que les gens vont vouloir, oui, effectivement, rester plus loin. Donc, il va y avoir une densité de population qu'il va falloir desservir. Ces gens-là qui restent en banlieue, bien, comment on va adresser ça? Puis, quels sont... Tu sais, à Toronto, là, imaginez Toronto là, qui s'est développé avec leur train de banlieue. À un moment donné, ils ont développé un réseau de train de banlieue à Toronto, puis ça a fait que Vaughan s'est développé. C'était une Vaughan, c'était à peu près quoi? C'est 70-100 km, à peu près, je vais pas dire de chiffre au hasard, là. Puis Oakville.
Mississauga.
Mississauga. Tout ça, ils se sont développés des centres-villes, méga centres-villes en développement actuellement. Tout ça à cause du transport structurant. Aujourd'hui, ils ont dit, hey, on a-tu bien fait? Mais en réalité, il a jamais prévu que ça allait être aussi impact que ça. Les gens qui travaillaient, qui faisaient du downtown à Mississauga tous les jours en train de banlieue. Maintenant, ils restent dans leur appartement, ils travaillent là. De temps en temps, ils font Toronto. Eux autres, ils sont morts de rire. Ce qu'ils ont investi à Mississauga vaut de l'argent, mais 10 fois comme ils avaient pensé. Fait que la tempête parfaite, ça crée cette espèce de...
D'engouement-là.
Ouais. Fait que, je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme un élément aujourd'hui. Fait que tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier, qui n'ont pas encore investi, eux autres, ils vont avoir des gros défis actuellement. C'est que... j'aurais plus tendance à prévoir qu'il va y avoir du un ajustement un peu. Ouais. Post-traumatique, si on veut, post-tsunami, ouais. Sur des valeurs de certaines propriétés, particulièrement ceux qui ne sont pas rénovés.
Oui, puis d'autant plus que tu disais depuis tantôt qu'il y a de l'abondance dans les projets. Il y a de la proposition, il y a beaucoup de propositions.
Il y a beaucoup d'offres.
Il y a beaucoup d'offres, fait que c'est encore plus pertinent d'aller vers des firmes comme toi pour se démarquer. Puis c'est pas un projet boboche ou à moitié bien fait qui va nécessairement frapper un coup de circuit. Il faut se peaufiner.
Je pense qu'il n'y a pas de mauvais produit, il n'y a pas de mauvaise clientèle. Il y a les clients vont devenir de plus en plus. Aujourd'hui, les gens qui louent ont l'impression qu'ils achètent un condo sont de plus en plus exigeants. Les personnes âgées qui vont dans des résidences personnes âgées, qui veulent leurs enfants qui magasinent pour eux, sont de plus en plus exigeants. Ils veulent être séduits au même titre que tu lui vendrais une propriété de 2 500 000, 2 millions. Là. Ils ont besoin de comprendre à quoi qu'ils achètent.
Un nourrit l'autre, parce que les développeurs ils jouent cette game-là aussi d'offrir toujours plus puis de pousser. T'sais.
C'est clair, correct,
mais un va...
Mais
tu
as le choix en tant que consommateur, c'est la
finalement. Tu réponds à ça.
Tu l'as fait la demande. Alors, tu t'en vas dans un endroit qui va t'offrir des qualités, puis c'est pas qu'il faut que tu connaisses à qui tu parles. Plus tu connais ton persona, plus tu vas l'adresser comme il faut, plus tu vas faire des campagnes de médias numériques, plus tu vas faire du lead qui va être intéressant, plus tu vas être capable de leur parler. Puis quand les gens vont venir te voir dans ton bureau de location, plus tu vas être en mesure de livrer la promesse. En tout cas, une partie de la promesse. Après ça, il faut que tu livres ton immeuble à la hauteur de ce que tu as promis. Et les services, les inclusions, les espaces communs, la proximité, ce qu'il y a à côté des immeubles, les éléments clés, les
la communauté que tu crées aussi à l'intérieur de tes résidents. Là, ouais. Parce qu'il y a une communauté qu'il faut créer aussi avec ça. Puis pour encore nommer Mostar, au niveau des nouvelles certifications, oui, il y a les certifications LEED, mais il y a aussi certification WELL qui est sur la qualité de l'occupant, là, d'offrir des buvettes, d'offrir genre de la musique dans les escaliers, d'envoyer une infolette.
Les recettes, ça doit venir de toi, c'est que le goût de food.
Le WELL, c'est génial parce que sincèrement, ça vient humaniser beaucoup de projets. Ouais. Ouais. Puis je regarde certains développements des années 70 ou 80 qui étaient faits, puis tu regardes les appartements, ceux qui achètent tes portefeuilles-là, là, puis ils achètent des... Tu dis, Caroline, qu'est-ce que... On est tellement détaché de ce genre d'habitation-là aujourd'hui. Regarde les maisons des années 70, c'était pas fabriqué pour avoir du fun.
C'est pas sexy.
C'était fait.
Un bunker.
Puis dans les années...
Même les maisons, majoritairement, c'était fait pour être pratique.
Ben, en 1900...
On a 5-8 enfants.
Ah, oh, c'est le confort.
Les maisons canadiennes, là, c'était chaque pièce avait sa fonction. Là, ça a toujours été ça. Là, la cuisine, c'est une cuisine. Le salon, c'est un salon. Tes chambres, c'est des chambres. Puis il n'y a pas d'air commun. On n'est pas là pour jouer. Puis
les immeubles aussi locatifs denses de Québec. Là, c'est pas si gros que ça, Québec, mais c'est pas sexy, là.
Mais tu parles des vieux portefeuilles.
Oui, ouais, c'est ça. Je parle des années 80. C'est pas bâti pour flasher.
Chose certaine. En tout cas, moi, je peux dire une chose. C'est qu'aujourd'hui, je suggère fortement des gens qui veulent développer, que ce soit du... Mettons, on parle de notre type de projet, là, du 50 unités et plus, ou de faire des phases. Venez nous voir. Parlez-nous. Puis l'expérience qu'on a à Québec, à Montréal, à Toronto, à Ottawa, aux États-Unis, avec certains projets, certains clients en Floride aussi... Ça ne peut pas être une mauvaise visite, ça peut pas être une mauvaise rencontre. À tout le moins, on vous conseillera sur des affaires à faire. Mais chose certaine, c'est que il y a beaucoup d'éléments à considérer. T'es, on est sur une étude de marché avec qui tu l'as fait. Qu'est-ce qui t'a donné comme prédictif? Qu'est-ce qui t'a donné comme information? Tes prix au loyer, t'as-tu fait tes comparatifs? Ça prend beaucoup de devoirs aujourd'hui, je trouve. En fait, je conseille aux gens de faire leurs devoirs dans l'immobilier aujourd'hui.
Oui.
Et de ne pas le faire.
De ne pas s'inventer comme investisseur ou de s'inventer un nouveau développeur, mais de le faire avec une vue vraiment très large sur son développement de business.
Il y a plusieurs professionnels qui sont bons là-dedans, puis nous, on fait partie d'un des éléments où on a un côté professionnel. Mais après ça, nous, ce qu'on fait comme recette, on parle tout à l'heure, on fait des analogies à goût de faux, à livrer des produits que les gens vont aimer. Mais ces recettes-là sont éprouvées. Ils ont éprouvé, ce sont des éléments qui fonctionnent. C'est juste adapté en fonction de où tu es, à qui tu parles, puis à quel âge qu'ils ont. Puis c'est pour ça qu'on travaille comme ça. Fait que...
Francis, on est obligé d'aller en pause. Vous êtes à la Bulle immobilière. C'est diffusé tous les samedis à 11h, mais toujours disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balados. Je vous remercie tout le monde. On se voit tout de suite après la pause. Bonjour, mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Vous écoutez la Bulle immobilière à 96.9. Je suis aujourd'hui avec Kevin Filion, mon co-animateur, comme toujours. On est aujourd'hui avec Francis Lessard, propriétaire de Graph Synergie. On parle de marketing, on parle d'immobilier. C'est super intéressant. Puis, Francis, comment que
ça s'est passé l'immobilier? Est-ce que tu peux nous faire un peu un historique? Est-ce qu'on est capable de placer dans le temps, par exemple, en 1980, les développements immobiliers se faisaient sur ces besoins-là versus en 2000, on était là, puis maintenant, en 2020, on se situe ici. Mmh. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se voir où il y a des tangentes vraiment marquantes dans les...
Il est clair que l'immobilier, il y a quelques années, ne répondait pas aux mêmes critères. C'est-à-dire que la démographie des gens, on parle des boomers, n'achetaient pas sur les mêmes fondements de valeur que les millennials ou les X, que moi j'en suis un X. Là. On n'achète pas sur les mêmes principes. Ça, c'est vraiment une question de génération. Fait quand tu regardes là, les projets de condos, il y a quelques années, la tendance démographique était plus, beaucoup plus à l'acquisition d'une maison en banlieue avec une voiture. Les années 50, ça, c'est les après l'après-guerre. Après ça, est arrivé une densification avec des centres d'achat. Puis, est arrivé les boomers. Les boomers ont voulu se rapprocher et avoir des communautés parce qu'ils ont appris à vivre en communauté. Puis c'est ce qu'ils voulaient faire, eux autres. Donc, je parle pas des hippies, nécessairement, mais c'est une tendance. Mais ça a créé des communautés. C'est les gated communities, en passant, là, des aux États-Unis, en Floride, qui se sont faits. C'était pour eux autres, ça. C'était pour les boomers qui s'en allaient vivre en communauté. Ces gens-là, ils voulaient vivre un petit peu... Et ça a tendance à revenir tranquillement pas vite. Pourquoi? Parce que les millennials aujourd'hui et les boomers ont beaucoup de similarités. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux en démographie, et ils ont à peu près les mêmes appréhensions. Ils n'ont jamais eu de problème à se trouver de l'ouvrage. Ils n'ont jamais eu de problème d'argent parce que l'argent coule à flot, les taux d'intérêt sont bons. Il faut comprendre que les boomers, eux, qui sont arrivés juste après-guerre, ça a été la croissance économique pendant des années. C'est différent des X que je suis. Moi, quand je suis sorti de l'école, c'était les faillites par-dessus faillite, les bureaux fermés, bureaux d'architecte.
Les taux à 13, 14.
Les taux 13, 14, 20, compagnie, c'est ça. Donc, c'est une culture différente. Et pour comprendre l'évolution de l'immobilier, c'est de comprendre la démographie. Ce qui arrive actuellement, là, je parle pas des années 80, 90, les changements, puis les nuances entre les deux, tout ça, mais... Aujourd'hui, ce qu'on peut voir comme transition, c'est qu'aujourd'hui, puis j'avais une discussion hier avec des collègues, on parlait d'une tempête parfaite. Cette tempête-là, aujourd'hui, ce qu'elle va provoquer, puis ce qu'elle va amener, il va y avoir des changements drastiques sur la façon d'utiliser ce qu'on pensait être des acquis. Hein? Faut densifier les centres-villes. Il y a personne qui parlait de se réapproprier des propriétés commerciales qui étaient extrêmement bien situées, puis de refaire des pôles. Tu sais, les transports en commun, là, ça va devenir un game changer aujourd'hui. Il va falloir se poser la question maintenant, les gens vont consommer quoi? Ils vont se divertir comment demain? Puis c'est quoi la propension du télétravail aujourd'hui que les gens connaissent pas? Il y a personne qui est capable de me dire si tu 20, si tu 30, si tu 40%. Puis quelle catégorie d'employés va vouloir retourner au bureau? Quel âge a-t-il? As-tu les moyens de consommation? Sur son lieu de travail, il va-tu être capable de magasiner, d'acheter? Tu sais, les rues commerciales, le centre-ville de Montréal, là. C'est-tu les boomers qui vont retourner au centre-ville ou ça va être les plus jeunes? C'est-tu les millennials ou c'est les X qui vont être plus enclins à retourner parce qu'eux autres, ils sont plus capables d'avoir des enfants à la maison? Faut qu'ils retournent travailler. Bien, aujourd'hui, la tempête parfaite, en plus, on a des taux d'intérêt qui sont bons, puis on a une pandémie. Puis on a une migration de démographique qui fait que la consommation immobilière puis les développements immobiliers se font en quantité effarante. Donc, on a du choix. Le prophète que je ne suis pas ne sera pas en mesure, n'est pas en mesure de vous donner tout ça aujourd'hui, mais c'est une tempête parfaite actuellement. Il y a des signes, par contre, qui disent qu'il y a un peu un tsunami qui va arriver après. Et ce tsunami-là, c'est beaucoup relié à la santé publique, puis au taux d'intérêt, aux dépenses, aux dettes publiques. Ça, pour moi, ça va amener un élément changeant qui va faire que les développeurs immobiliers ou les projets ou les investisseurs vont devoir se poser la question sur ces deux critères-là puis les surveiller. Je parle pas du taux de change, là, je parle vraiment, là, parce que il y a deux choses qui s'amènent. Le taux de change, ça amène aussi la capacité d'acheter des équipements. Aujourd'hui, le 2x4, quand il a augmenté de 300%, ça a un impact sur les projets immobiliers à long terme. Ça va-tu rester comme ça? Tant qu'il y a de la surchauffe, oui. Tant qu'il y a de la demande, oui. Fait que moi, je regarderais, on a vu évoluer. Avant, c'était beaucoup des groupes de population, des taux d'intérêt un petit peu qui changeaient, les styles de t'avais les millennials, t'avais les X, t'avais les boomers. Il y avait des masses de consommation. Là, on est arrivé dans un contexte où tout ça s'est clashé, comme dans une grosse vague. Et là, c'est plus...
On sait pas ce qui va tomber en arrière de ça.
C'est plus une question de genre. C'est plus une question de
d'âge.
D'âge. Ouais. C'est comme une question maintenant de d'autres choses.
De besoin, peut-être.
Ouais, on veut quoi demain, disons? En tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que grand-parent.
Mais tu sais, puis ça peut être un game changer complètement différent aussi. Ça peut devenir aussi... une question de survie aussi, parce qu'avant la COVID, tu sais, on avait 500 milliards de dettes au Canada, on est à, tu sais, 500 milliards de plus depuis la COVID. Fait que, tu sais, pendant toutes ces années-là, on avait accumulé 500 milliards de dettes, la COVID arrive, boum, on double notre dette par rapport à tout ça, tu sais, ça va avoir des impacts significatif au niveau économique pour l'ensemble de la population. Puis, tu sais, il y a des mouvements migratoires aussi qui se fait. Autant des bébés boomers qui, eux, avaient déjà commencé à être en banlieue. Puis là, ben ils se font un petit peu plus vieillissants. Fait qu'eux veulent revenir vers les centres. Mais ceux qui travaillaient, les X, les millennials, ben eux autres veulent peut-être aller en banlieue. Ouais. Tant que l'Internet rentre avec des tonnes de briques, ben tu sais, ouais, ils peuvent se permettre d'être en banlieue puis d'y aller une fois, deux fois par semaine au bureau.
Exactement. Ils ont dit banlieue, mais des fois, c'est chalet. Là, on recevait Nicolas dans les fêtes pour tout ce qui est Charlevoix. La demande à Charlevoix était épouvantable.
Ben ils vont dans des endroits où c'est agréable. C'est agréable. Mais quand tu vas au chalet en Charlevoix, sors pas dehors, t'as oublié une peine de lait. T'es nulle part. Ça, c'est bon, un 6 mois, 12 mois, tu vis ton trip chalet. Moi, je betterais là, actuellement sur des quartiers centraux résidentiels, entre autres à Québec. Je serais du genre à regarder Sainte-Foy, Sillery. C'est des propriétés qui valent plus cher, mais regarde comment elles sont situées. Tu as des maisons unifamiliales de secteur que tu as besoin de rénover. Et si j'étais une ville, je lance une petite affaire, si j'étais une ville en développement immobilier, plutôt que de dire on va créer des quartiers centraux très densifiés, j'aiderais plutôt, moi, les jeunes familles qui restent en banlieue, qui veulent revenir au centre-ville, à avoir des crédits d'impôt pour rénover des maisons de boomers qui partent à la retraite, qui s'en vont dans les résidences ou dans les appartements. Ouais. Si le matin, tu crées des crédits d'impôt ou des baisses de taxes, tu ramènes du monde au centre-ville, ça justifie tes transports collectifs parce qu'ils vont en avoir plus. Ça justifie aussi d'avoir des centres d'achat en santé puis d'avoir des équipements et des rues commerciales parce qu'il va y avoir plus de consommateurs en bas âge, avec des familles, des enfants qui vont aller dans les écoles de quartier, dans les écoles privées à Québec, dans les endroits à proximité. Et moi, je suis
Puis où est-ce que l'économie va être active aussi?
Exact.
Parce que ça, c'est quand même super important. Puis quand on a reçu ImmoStar, justement, c'était un des points qui était super important aussi dans leur positionnement de produits. C'était aussi d'amener des services, d'avoir, oui, le tramway, peut-être, oui, les autobus, oui, s'assurer qu'on ait des services en commun. Puis, tu sais, moi, au départ, j'étais comme, ouais, tu sais, les services en commun, c'est pas tant important, etc. Tu sais, on a tellement une population minime par rapport au territoire qu'on couvre. Tu sais, on se retrouve à Boston avec 7 millions de personnes. Versus ici, on est à 800 000.
Pour le même territoire.
Puis, c'est sûr qu'à Boston, les infrastructures, les métros, les autobus, le tramway, mettez-les, c'est important, tout le monde est là. Tandis que moi, ici, j'étais toujours, ben, tu sais, on est tellement grand par rapport à tout ça, c'est sûr qu'on va toujours avoir besoin de notre voiture par rapport à tout ça. Puis surtout, étant courtier immobilier, je suis dans ma voiture comme 50 000 km par année. Fait que, veux pas, tu sais, moi, je trouve ça inconcevable. Puis, ImmoStar m'a amené à réfléchir différemment. Ils ont dit, tu sais, quand on arrive à avoir des gens qui ont un intérêt à venir s'implanter ici, au Québec, qui veulent de l'immigration ou quelque chose comme ça, ben, ils n'auront peut-être pas de l'argent pour avoir une voiture dans leur première année. Donnons-leur des services pour pouvoir se promener à l'intérieur de la ville, puis on va garder l'économie dans le secteur. Puis c'est là que j'ai comme fait, là, ça fait du sens.
C'est culturel un peu aussi. Tu dis la culture de l'auto, c'est dans ta tête, c'est ancré tout ça, mais s'il y a des développeurs qui mettent des projets où la solution est là puis est efficace, que justement, ça t'amène à repenser à, oui, ta vie de famille et toutes les contraintes que ça peut amener, mais il y a peut-être un moment que tu vas te loger dans ta vie que ça va te rejoindre.
Et là, ça touche un peu un de nos métiers. Connaître son persona, la clientèle à qui on s'adresse. C'est sûr qu'un développeur qui arrive, qui est mal préparé, qui fait mal ses travaux, puis il pense qu'il va faire comme le projet 3-4 km plus loin, mettre une pancarte sur le bord du chemin comme il y a 15 ans, puis ça se loue, ça se vend. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire, mais faites ton exercice, fais tes devoirs autrement, pense à ta démographie, réfléchis avec la ville sur ces développements qu'ils vont faire, la proximité ou l'opportunité d'un transport structurant, parce que même si on a des commentaires, tous et chacun, sur le transport structurant à Québec ou à Lévis, c'est important d'avoir du transport commun qui est efficace. Puis quand tu sors dehors, il arrive à l'heure, on time, il est agréable, il est le fun, t'embarques dedans ou pas, c'est ce qui fait que t'embarques. Le métro, là, qu'est-ce qui est le fun? Tout le temps même heure, tout le temps même propriété, tout le temps même affaire, puis tout le temps même chose. T'es sûr de tes heures, tes jours. Fait que ça donne, c'est un game changer pour bien des familles. En tout cas, et c'est une partie du métier qu'on fait, qu'on a besoin de connaître. C'est sûr que nous autres, quand on arrive, ce qu'on va faire pour une première étape, on va souvent regarder l'étude de marché qui a été faite. C'est qui l'a fait, comment il l'a fait. T'sais, je sais que j'avais reçu des collègues avec qui je travaille, Steve Gilbert, pas de le nommer, mais souvent, ce qu'on prend, c'est qu'on, première chose qu'on analyse, on prend l'analyse de Steve, puis on s'en inspire, puis on challenge Steve sur ses études de marché aussi, pour qu'il n'y ait pas juste sa dimension à lui, qu'il y ait la dimension aussi, parce que lui, il n'est pas d'invente, il ne sait pas si son étude de marché a créé les
gens. Le résultat escompté.
Oui, parce qu'il dit, lui, il va créer des cadres. Puis ce qu'il veut, c'est d'abreuver du résultat pour être capable de
contaminer. Parce qu'il part du passé, lui.
Il part du passé historique. Avec du prédictif. Et prédictif, et pour confirmer si c'est bon ou pas, il faut travailler ensemble. En tout cas, dans l'immobilier, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer ces affaires-là pour créer, pour comprendre. Puis à la fin de la journée, il faut que ça marche.
Puis quand tu dis là, qu'on se base sur le passé, là,
nous, comme courtier immobilier, là, qu'est-ce qui s'est vendu en juillet l'année passée, là, qui est même pas un an, c'est même pas comparable à qu'est-ce qui se passe actuellement, là.
Puis, tu sais,
je parle actuellement de la région de Québec seulement, là. Tu sais, Montréal, eux autres, ça, ils vivent ça depuis un certain moment par rapport à tout ça. Mais, c'est quand même difficile. Puis, autant que, en juillet l'année passée, j'étais capable de donner une braquette de prix à mes clients pour 5-6 000 piastres, qu'en date d'aujourd'hui, mes braquettes vont être de 10-15 000 piastres parce que c'est plus difficile, parce que les acheteurs sont tellement émotifs dans leur achat qu'ils vont offrir des prix largement supérieurs. Puis on en a quelques-uns acheteurs qui vont être plus raisonnés, qui vont être plus cartésiens, puis qui vont respecter certains budgets par rapport à tout ça. Mais là vient un moment donné où ce que la pression se fait sentir de l'externe. La maison est vendue, ils doivent sortir pour une date précise, etc. L'émotion embarque, puis là, ils deviennent complètement déraisonnés. Puis c'est quand même fou, là, qu'est-ce qui se passe.
Je pense qu'il faut pas... Si on parle de la tempête parfaite, ça dure, ça fait mal, ça dure un certain temps, ça va provoquer des effets collatéraux. Là, la COVID, partout dans le monde, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on est...
C'est la bonne nouvelle.
Si
on était juste au Québec et au Canada à vivre ça de cette façon-là...
J'aurais peur en maudit.
Tabarouette, mais tu sais, la bonne nouvelle, c'est que c'est international, puis c'est là qu'on se console, parce qu'on se dit, écoute, si nous, ça crache partout aussi, là.
C'est ça. Ben oui, puis en même temps, je pense que ça devient... Je pense encore que Québec, c'est un terreau fertile pour l'investissement étranger. Je pense que c'est une opportunité pour attirer des travailleurs parce que le coût de la vie reste encore extrêmement intéressant par rapport à d'autres endroits. Puis même Montréal, c'est un endroit, même si c'est plus cher, ça reste encore, en Amérique du Nord, un des endroits, j'appelle ça un « cheap place to live », là. Ça coûte pas cher, Montréal, par rapport à bien des centres urbains.
Des métropoles,
mais métropoles en Amérique du Nord. À Québec, c'est un centre régional, là. C'est encore mieux comme qualité de vie, là. Et c'est sûr qu'il faut t'aimer le froid par rapport à ça, mais une fois que tu as passé ça. Mais par contre, ce qui nous désavantage, nous, c'est notre taux de change, c'est notre dollar par rapport à l'intéressement des gens qui viennent ici, investir ici. Une fois qu'ils viennent ici, qu'ils ont le dollar canadien, ça leur donne pas beaucoup de pouvoir pour retourner dans leur pays, pour réinjecter de l'argent dans leur pays ou pour voyager après. C'est plate à dire, mais c'est ça. Le dollar américain, il est à 20 cents, là. Il est moins pire, là. Mais l'euro et l'aide sterling, c'est 80 cents, là. C'est 80% de plus, là. Et 76% pour l'euro. C'est sûr que quand tu vas attirer, tu vas parler d'immobilier, d'identification, on parlait d'attirer du monde, l'immigration, c'est super important. Donc, nous, on prend ça en considération. On parle beaucoup d'économie, par exemple. Je pensais pas que c'était une connerie.
Non, mais tu sais, une des choses qui était bonne pour la COVID, là, c'est que ça a amené une super belle température pour l'hiver, là, parce qu'on a eu vraiment un hiver extraordinaire.
Ça doit être ça. Chercher le lien. Je suis pas
économiste en passant.
Puis tu sais aussi, pour finaliser sur le volet, si on veut, plus économique, tu sais, on a toujours parlé que la région de Québec, c'était une ville de fonctionnaires. Puis tu sais, dans les crises économiques de 90, de 2000, 2008, on a quand même passé au travers, tu sais, je veux pas dire haut la main, mais on a quand même bien passé au travers des crises économiques. Puis tu sais, on va en vivre une là, prochainement. Puis il faut juste, on sait pas quand, mais ça s'en vient.
Ouais. Mais je pense que l'impact des fonctionnaires va peut-être avoir moins d'influence sur cette pandémie-là. Ouais. Parce que ça touche pas juste une catégorie de population, ça touche un écosystème complet.
Ils sont pas à l'abri de ça. Sinon, même, ils sont encore plus en télétravail.
Ça met une pression sur tous les paliers de gouvernement ensemble. Fait que c'est beaucoup plus que la région. Fait que c'est plus, je pense pas que l'impact gouvernemental, puis je pense pas qu'on en vive une grande crise ici parce que les employés qui sont plus défavorisés, ils ont été subventionnés quand même.
Ben oui, exact. Puis en plus de ça, c'est
la valeur de notre dollar qui, je pense, à force d'imprimer de l'argent, à un moment donné, il faut se poser la question.
Encore là, tout le monde en imprime.
Tout le monde en imprime, donc pourquoi la crypto-monnaie augmente actuellement, c'est à cause de ça. Fait que les gens se retournent vers la crypto-monnaie parce qu'ils
viennent à l'économie. Mais moi, une question qui me reste depuis tantôt, quand tu dis tempête...
On va acheter l'immeuble avec l'économie.
C'est ça, avec du bitcoin. C'est quoi le... Quand tu dis la tempête parfaite, du point de vue à qui est parfaite? Dans le sens que... Pourquoi tu la nommes parfaite?
Une tempête parfaite, je pense pas qu'elle est parfaite pour personne. Il y a des gens qui vont en profiter par opportunité, puis parce qu'ils sont...
Pour les clients développeurs, tu veux dire, mettons, du point de vue...
Au niveau immobilier, là, des gens qui... C'est parce que actuellement, ça a provoqué cette tempête. T'sais, pour les courtiers, actuellement, c'est le nirvana.
Ah oui?
Ils n'ont pas à courir. Tout est plus haut. Les commissions sont plus élevées parce que les prix sont plus élevés. Ils n'ont pas fait plus d'ouvrages que d'autres. Je ne dis pas rien quand
ils... Non, mais ils sont pas meilleurs que.
Ils n'ont pas provoqué ça tant que ça pour la majorité. Ils n'ont pas tout été. Il y a quelqu'un qui a trouvé une méthode de marketing ultra puissante, puis qui a fait que lui, ses leads, ils rentrent comme 10 fois comme les autres.
Il y en a qui le font. Ils ont juste plus de business que les autres, mais la tempête parfaite dans ce cas-ci fait qu'il y a beaucoup de business, comme moi, j'en ai profité l'année passée, 35% de croissance, l'année passée, cette année, ça va être la même chose. Notre domaine profite de la demande pour des projets innovants, les investissements sont bons, la HHL embarque dans les projets, le financement, les taux d'intérêt sont tellement bons que les gens profitent pour investir énormément. Pour le moment, c'est très bon. J'ai besoin d'une tempête parfaite pour une certaine partie de l'économie, mais une tempête parfaite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont mis ensemble qui font qu'il y a comme une espèce de réaction en chaîne qui s'est pas encore provoquée. Fait que un impact a amené des bénéfices pour l'autre, puis des bénéfices pour le côté négatif d'un va amener des bénéfices pour l'autre, qui fait qu'à un moment donné, à l'échelle mondiale, c'est une tempête qui va. C'est une grosse vague, mais ça détruira pas tant. Tant de choses que ça, ça va donner du. Ça donne une réinvention de la ville. Ça oblige des propriétaires, des développeurs à repenser leurs immeubles, des centres d'achat à se réinventer plus vite qu'ils pensaient plutôt que de se faire ça au compte-gouttes. Ouais. Les villes à repenser à du transport autrement parce que les gens vont vouloir, oui, effectivement, rester plus loin. Donc, il va une densité de population à qu'il va falloir desservir. Ces gens-là qui restent en banlieue, bien, comment on va adresser ça? Puis, quels sont. Tu sais, à Toronto, là, faut imaginer Toronto là, qui s'est développé. Avec leur train de banlieue. À un moment donné, ils ont développé un réseau de train de banlieue à Toronto, puis ça a fait que Vaughan s'est développé. C'était une Vaughan, c'était à peu près quoi? C'est 70-100 km, à peu près, de, je vais pas dire de chiffre au hasard, là. Puis Oakville.
Mississauga.
Mississauga. Tout ça, ils se sont développés des centres-villes, méga centres-villes en développement actuellement. Tout ça à cause du transport structurant. Aujourd'hui, ils ont dit, hey, on a-tu bien fait? Mais en réalité, il a jamais prévu que ça allait être aussi impact que ça. Les gens qui travaillaient, qui faisaient du downtown à Mississauga, tous les jours en train de banlieue. Maintenant, ils restent dans leur appartement, ils travaillent là. De temps en temps, ils font Toronto. Eux autres, ils sont morts de rire. Ce qu'ils ont investi à Mississauga vaut de l'argent, mais 10 fois comme ils avaient pensé. Fait que la tempête parfaite, ça crée cette espèce de...
D'engouement-là.
Ouais. Fait que je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme un élément aujourd'hui. Fait que tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier, qui n'ont pas encore investi, eux autres, ils ont des gros défis actuellement. C'est que j'aurais plus tendance à prévoir qu'il va y avoir un ajustement un peu. Ouais. Post-traumatique, si on veut, post-tsunami, ouais. Sur des valeurs de certaines propriétés, particulièrement ceux qui ne sont pas rénovés.
Oui, puis d'autant plus que tu disais depuis tantôt qu'il y a de l'abondance dans les projets. Il y a beaucoup de propositions.
Il y a beaucoup d'offres.
Il y a beaucoup d'offres. C'est encore plus pertinent d'aller vers des firmes comme toi pour se démarquer. Puis c'est pas un projet boboche ou à moitié bien fait qui va nécessairement frapper un coup de circuit. Il faut se peaufiner.
Je pense qu'il n'y a pas de mauvais produit. Il n'y a pas de mauvaise clientèle. Les clients vont devenir de plus en plus. Aujourd'hui, les gens qui louent ont l'impression qu'ils achètent un condo sont de plus en plus exigeants. Les personnes âgées qui vont dans des résidences personnes âgées, qui veulent leurs enfants qui magasinent pour eux, sont de plus en plus exigeants. Ils veulent être séduits au même titre que... Tu lui vendrais une propriété de 2 500 000, 2 millions, là. Ils ont besoin de comprendre à quoi qu'ils achètent.
Et un nourrit l'autre, parce que les développeurs ils jouent cette game-là aussi d'offrir toujours plus puis de pousser. T'sais.
C'est clair, mais tu as le choix en tant que consommateur, c'est la
demande. Tu réponds à ça.
Tu l'as fait la demande. Alors, tu t'en vas dans un endroit qui va t'offrir des qualités, puis c'est pas qu'il faut que tu connaisses à qui tu parles. Plus tu connais ton persona, plus tu vas l'adresser comme il faut, plus tu vas faire des campagnes de médias numériques, plus tu vas faire du lead qui va être intéressant, plus tu vas être capable de leur parler. Puis quand les gens vont venir te voir dans ton bureau de location, plus tu vas être en mesure de livrer la promesse. En tout cas, une partie de la promesse. Après ça, il faut que tu livres ton immeuble à la hauteur de ce que tu as promis. Les services, les inclusions, les espaces communs, la proximité, ce qu'il y a à côté des immeubles, les éléments clés, les
commerces. La communauté que tu crées aussi à l'intérieur de tes résidents, là, ouais. Parce qu'il y a une communauté qu'il faut créer aussi avec ça. Puis pour encore nommer Immostar, au niveau des nouvelles certifications, oui, il y a les certifications LEED, mais il y a aussi la certification WELL, qui est sur la qualité de l'occupant, là, d'offrir des buvettes, d'offrir genre de la musique dans les escaliers, d'envoyer une infolette.
Les recettes, ça doit venir de toi, c'est que le goût de food. Les recettes.
Mais le well, c'est génial parce que sincèrement, ça vient humaniser beaucoup de projets. Ouais. Ouais. Puis je regarde certains développements des années 70 ou 80 qui étaient faits. Puis tu regardes les appartements, ceux qui achètent tes portefeuilles-là, là, puis ils achètent des. Tu dis, Caroline, qu'est-ce que. On est tellement détaché de ce genre d'habitation-là aujourd'hui. Regarde les maisons des années 70, c'était pas fabriqué pour avoir du fun.
C'est pas sexy.
C'était fait.
C'est un bunker. Puis dans les années...
Même les maisons majoritairement, c'était fait pour être pratique,
Ben, en 1900,
les enfants, puis on a 5-8 enfants.
Ah, oh, c'est le confort.
Tu sais, les maisons canadiennes, là, c'était chaque pièce avait sa fonction. Là, tu sais, ça a toujours été ça. Là, tu sais, la cuisine, c'est une cuisine. Le salon, c'est un salon. Tes chambres, c'est des chambres. Puis, tu sais, il n'y a pas d'air commun. On n'est pas là pour jouer. Puis, tu sais.
Les immeubles aussi locatifs denses de Québec, là, c'est pas si gros que ça, Québec, mais c'est pas sexy, là.
Mais tu parles des vieux portefeuilles.
Oui, ouais, c'est ça. Je te parle des années 80. C'était pas bâti pour flasher.
Chose certaine. En tout cas, moi, je peux dire une chose. C'est qu'aujourd'hui, ça, je suggère fortement des gens qui veulent développer, que ce soit du... Mettons, on parle de notre type de projet, là, du 50 unités et plus, ou de faire des phases. Parlez-nous. Venez nous voir. Parlez-nous. Puis l'expérience qu'on a à Québec, à Montréal, à Toronto, à Ottawa, aux États-Unis, avec certains projets, certains clients en Floride aussi... Ça peut pas être une mauvaise visite, ça peut pas être une mauvaise rencontre. À tout le moins, on vous conseillera sur des affaires à faire. Mais chose certaine, c'est que il y a beaucoup d'éléments à considérer. T'es, on est sur une étude de marché avec qui tu l'as fait. Qu'est-ce qui t'a donné comme prédictif? Qu'est-ce qui t'a donné comme information? Tes prix au loyer, t'as-tu fait tes comparatifs? Ça prend beaucoup de devoirs aujourd'hui, je trouve. En fait, je conseille aux gens de faire leurs devoirs dans l'immobilier aujourd'hui.
Oui.
Et de ne pas le faire.
De ne pas s'inventer comme investisseur ou de s'inventer un nouveau développeur, mais de le faire avec une vue vraiment très large sur son développement de business.
Il y a plusieurs professionnels qui sont bons là-dedans, puis nous, on fait partie d'un des éléments où on a un côté professionnel. Mais après ça, nous, ce qu'on fait comme recette, on parle tout à l'heure, on fait des analogies à goût de faux, à livrer des produits que les gens vont aimer. Mais ces recettes-là sont éprouvées. Ils ont éprouvé, ce sont des éléments qui fonctionnent. C'est juste adapté en fonction de où tu es, à qui tu parles, puis à quel âge qu'ils ont. Puis c'est pour ça qu'on travaille comme ça. Fait que...
Francis, on est obligé d'aller en pause. Vous êtes à la Bulle immobilière. C'est diffusé tous les samedis à 11h, mais toujours disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balados. Je vous remercie tout le monde. On se voit tout de suite après la pause. The Alternative Radio Station. 96.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.